comme un lundi.
En français, comme dans la plupart des langues romanes, le mot lundi est issu du latin lunae dies, signifiant jour de la lune, dit lune en occitan. Actuellement, beaucoup de cultures considèrent le lundi comme le début de la semaine travaillée, juste après le week-end.
Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Comme un lundi du 26 février.
On est en direct à midi ou en rediffusion à 18h.
Et vous nous écoutez quand et où vous voulez, en podcast, en passant par notre site radioalbiges.com.
Aujourd'hui, à la technique qu'on a entendue là juste à l'instant, c'est Arnaud. Salut Arnaud.
Et plein le brunsum, bravi monde.
Et pourquoi animer cette émission avec moi? C'est Will. Salut Will.
Salut Pao.
Alors, au sommaire de ce Comme un lundi,
on aura un avant-goût du carnaval de la Caïtibio, le carnaval des miséreux qui se déroulera ce samedi 2 mars à Cordes-sur-Ciel et qu'on annoncera avec un morceau carnavalesque de la Talbert.
L'actualité culturelle en Occitanie avec Radio Sainte-Afrique, il sera question de rencontres avec des personnes qui inventent leurs propres mots.
Un épisode de l'ABCDR avec la lettre C pour convivialité.
La chronique de Jérôme Gouste autour du Nutri-Score.
Il y aura aussi du côté de Pigouzon, des échos de l'Université Champollion à Albi avec un diplôme universitaire pour rebondir, le DU Agile, un diplôme innovant dédié à l'accompagnement des étudiants souhaitant se réorienter.
Et les échos d'une rencontre entre Angèle et Isabelle lors de l'action Genre et Sexualité à la fac d'Albi du 26 janvier.
Un voyage musical aussi, là où les rêves sont fertiles, avec Sarah Roubato et Hugo Cordonnier pour un annoncer leur prochain concert ce vendredi à la médiathèque de Pigouzon.
On parlera de Pigouzon, toujours avec Hugo et Guillaume qui ont fabriqué une houe maraîchère, un outil innovant made in Aki.
Et pour démarrer ce Comme un lundi, on parle avec Michel Benidri, français, juif et arabe.
Allez, Comme un lundi, c'est parti.
Et donc pour commencer ce Comme lundi, on va parler du comité Palestine 81 qui vous donne régulièrement rendez-vous sur les ondes de Radio Albitzès dans le créneau Mondophonie. Et il tente tant bien que mal d'œuvrer à la compréhension du conflit israélo-palestinien dans ses divers aspects et ses diverses époques plus ou moins dures. Et là on peut le dire, on y est dans le dur et les discours autour de ce conflit n'ont jamais été aussi passionnés, manipulés, instrumentalisés. Le comité Palestine 81 vous propose donc cette semaine la diffusion d'une entrevue avec Michel Benidri, français, juif et arabe, qui propose une conférence gesticulée pour tenter d'expliquer que ce conflit n'est pas religieux mais bien territorial. On en écoute un extrait enregistré le 8 février dernier au foyer Pascal Ambic de la fac de Champollion.
Je crois que dès que j'ai commencé à faire du théâtre, cette chose était comme une graine en moi. Après, j'ai mis très 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 longtemps pour le faire, mais j'ai, je peux dire, très très tôt ressenti ce conflit de loyauté en fait à l'intérieur de moi-même. Et en grandissant, en mûrissant, en vieillissant aussi, à un moment donné, les choses se sont éclaircies. Et puis l'âge de mes parents a fait que petit à petit, les choses s'affinaient. Moi, je posais des questions avant qu'ils meurent, quoi. Et je n'obtenais pas toujours de réponses, donc je suis allé aussi les chercher dans des livres, dans des questionnements, des interviews que j'ai fait auprès d'autres membres de ma famille. Et puis leur décès à mon père d'abord, puis à ma mère, m'a rendu, je ne sais pas, je sentais qu'il était absolument nécessaire que je fasse ce travail jusqu'au bout. Voilà, alors j'avais commencé d'abord par faire tout un travail où je voulais faire un boulot de psy, psychanalytique. Il m'a permis de mettre un petit peu de l'ordre sous mes pas. Et puis j'ai commencé à faire un énorme travail historique. J'avais besoin de rassembler les morceaux et tout plein de questions que je me posais. Mais alors pourquoi ils étaient là? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi les Anglais? Pourquoi les Ottomans? Et pourquoi ceci? Nanani nanana. Et ben essayer de gratter un petit peu plus que juste le récit de base. Et à partir du moment où j'avais un peu plus d'éléments, des mondes s'ouvraient, quoi. Pourquoi les Anglais étaient là, quoi? C'est vachement intéressant. C'est une histoire, un truc que j'ai coupé, je ne raconte pas dedans, mais se dire qu'en fait, les Anglais n'avaient pas cru au moteur dans les bateaux. Ils pensaient que le bateau à voile gagnerait sur le bateau à vapeur, donc le train. eux, les Anglais, ils avaient investi sur le train en Afrique. Et donc le canal de Suez ne les intéressait absolument pas. Et quand en fait le moteur à vapeur a pris, c'est-à-dire c'était un vrai pari que la France et l'Égypte ont financé, la France en argent et l'Égypte en vie humaine, les Anglais rien. Et quand l'économie s'est effondrée en Égypte, ils ont racheté à vil prix tous les bons du trésor, les bons en action du truc, parce qu'ils ont tout de suite senti que ça y est, le truc marchait, et donc l'Angleterre avait besoin, parce que ça divisait par 4 ou par 10 le trajet pour aller en Inde. Donc ils se sont tout de suite positionnés dessus. Alors tu te dis, mais alors en fait, encore une fois, c'est le capitalisme qui est responsable de ça. Toutes ces pièces du puzzle, petit à petit, des choses s'agencent, et au sein d'une conscience politique, me permet d'avoir une lecture du monde. Alors, en l'occurrence d'un petit monde, c'est celui que j'essayais de défricher. Et donc voilà, des choses, je me suis dit, mais il faut absolument que cette chose-là, j'en parle. Mais comment en parler? Comment être légitime? Comment trouver la forme? Et ben, le hasard a fait que j'ai assisté à une conférence gesticulée et qu'un jour, cette chose-là était devenue une évidence, que ce rapport entre la scène, un discours politique, une analyse politique et moi, le fait que je sois comédien, me permettait de pouvoir mettre en œuvre ma compréhension, mon analyse, d'une manière partageable, qui ne soit pas juste un cours d'histoire, très chiant, ou prendre des textes d'auteurs qui font leur boulot, mais je voulais autre chose, je voulais un truc qui soit à la fois didactique et en même temps, on passe un bon moment ensemble. Voilà.
Donc moi, le petit Michel, le petit enfant juif, j'avais appris que Moïse, après avoir libéré son peuple de l'esclavage, eh bien, Moïse, avec eux, toute la bande, ils ont traversé comme ça le désert pendant 40 ans. Et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu avec les gourdes, mais à un moment donné, plus d'eau, dis donc.
Alors, naturellement, quand j'ai écrit, moi, que j'ai travaillé, quand c'est sorti, on était dans une certaine forme de statu quo. Et comme je dis, il y a eu un avant et un après 7 octobre. Donc, du coup, naturellement, il y a des choses que j'ai changées, que j'ai totalement réécrites. Le dialogue entre Mahmoud et Moshe, ils étaient plus en train de se chamailler que de pleurer ensemble. Parce qu'en vérité, c'est ça que je voudrais encore arriver à faire ressentir aux gens. C'est que oui, malgré toute la haine que certains ressentent, ceux qui ont été invités, que j'ai pu entendre à la radio hier aux Invalides, distillent un discours de haine, mais qui est terrible. Sauf que, bien entendu, tout discours de haine ne conduira jamais à une résolution pacifique et juste de ce conflit. Et, tel qu'on est engagé aujourd'hui, on repart pour 3 générations de haine. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand on se dit on aime un territoire, on aime des gens, on aime une culture, on ne peut pas avoir envie de ça. Donc on en sort comment? C'est-à-dire qu'on n'aurait pas le choix. Mais non, c'est politique le sionisme. C'est un discours politique. Et moi, je considère qu'on a le droit de critiquer le sionisme, qu'on a le droit, et heureusement, de critiquer le Front National. C'est une idéologie. Sauf que quand je vois Meir Habib, ministre du gouvernement, sermonner la France Insoumise parce qu'ils sont présents aux Invalides et faire la bise à Bardella, franchement, ça, non seulement ça me fait mal aux tripes, mais lui qui est un très grand ami de Netanyahou, il y a une lecture très claire de quelle est la pensée politique de ce dirigeant avec les alliances politiques qu'il a fait. Voilà. Il faut juste que on sorte du conflit de loyauté dans lequel on nous met. C'est-à-dire qu'on peut, oui, défendre notre culture juive et être de gauche et ne pas être d'accord avec la politique qui est menée là-bas. Une politique d'apartheid, une politique dégueulasse et qui considère qu'il y a des sous-populations. Ce n'est pas acceptable. Malheureusement, la seule réponse à force, hein, c'est-à-dire en 70 ans de tentatives de négociation, à force de, comme je dis dans le spectacle, au lieu que ça se normalise, ça se radicalise. Ben voilà.
Michel Benizri, rencontré donc au foyer Pascal Ambic à la fac Champollion le 8 février dernier lors des retours du jeudi. Retrouvez l'intégralité de cette entrevue ainsi que des extraits de sa conférence gesticulée « Moi, français, juif, arabe » dans notre créneau Monde Fourni ce lundi à 14h, si vous nous écoutez à midi en tout cas, et ce mercredi à 8h du matin ou encore ce samedi à 20h sur Radio Albitzès. À noter que nous reparlerons du comité Palestine 81 la semaine prochaine dans Comme un lundi.
Allez, direction Puy-Gouzon afin de rencontrer Hugo et Guillaume. Hugo est maraîcher bio à Gaillac, à l'essor maraîcher, et Guillaume est ingénieur mécanique et gérant de la société Axe à Puy-Gouzon. Avec la volonté de s'autonomiser, disposant des plans de construction par l'atelier paysan et disposant du savoir-faire technique et des machines de l'atelier de Guillaume, Hugo a fabriqué pas une, mais deux houes maraîchères. Mais c'est quoi une houe ? Comment Hugo et Guillaume ont-ils collaboré ensemble ? Et c'est quoi l'autonomie par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire. Hugo et Guillaume nous en disent un peu plus. Hugo, est-ce que tu peux nous présenter ton activité ?
Oui, moi je suis maraîcher depuis un an et demi. Je travaille dans un espace test agricole qui s'appelle l'Essor Maraîcher, qui est à Gaillac. C'est une association qui dépend principalement de la communauté de communes Gaillac-Grouillet et qui a pour vocation d'accompagner des porteurs et des porteuses de projets en maraîchage biologique. Donc ils nous mettent à disposition un terrain, des serres, un système d'irrigation, du matériel, et on est autonome sur notre production et notre commercialisation, ce qui nous permet pendant un maximum de 3 ans de nous faire la main sur l'activité, de nous tester, de tester des itinéraires techniques et puis de nous tester nous sur notre attrait pour le métier, quoi, passer vraiment d'une idée à un projet plus concret. Et ils nous accompagnent également pour nous installer sur le territoire en propre. C'est une pépinière d'entreprise en maraîchage et j'y travaille depuis un an et demi.
Et on est avec Guillaume dans ton atelier à Puy-Gouzon. Guillaume, est-ce que toi tu peux aussi nous présenter ton activité ?
Alors moi je suis ingénieur de formation et je fais de la conception et de la fabrication d'outils pour l'industrie, donc c'est de l'outil sur mesure. Donc quand il y a des demandes un peu spécifiques d'industriels locaux, ils font appel à des sociétés comme la mienne pour concevoir un outillage sur mesure et pouvoir le fabriquer et leur livrer et faire la mise au point avec eux si nécessaire. Et donc là aujourd'hui on se trouve dans mon atelier donc, qui est l'atelier de ma société dans laquelle je fais mon activité, donc la société Axe, et ça permet d'avoir un côté bureau d'études et un côté fabrication dans l'atelier.
Du coup tous les deux vous êtes rencontrés et vous avez fabriqué ensemble une houe. C'est quoi une houe ?
Alors c'est une houe maraîchère pour être exact, c'est aussi ce qu'on appelle un pousse-pousse. C'est un outil manuel équipé d'une ou deux roues qu'on va pousser. Donc l'opérateur, paysan, la paysanne pousse sa houe, sa houe maraîchère. Et elle peut être équipée de différents outils. Et ça peut servir pour désherber des planches, pour travailler un peu la terre, pour buter. Ça peut avoir différentes utilisations.
Hugo, tu as fait le choix de fabriquer toi-même avec Guillaume cette houe. Pourquoi tu as fait le choix de la fabriquer et non pas d'aller l'acheter en dehors de l'aspect financier ? Parce qu'une houe, ça coûte combien à peu près ?
Alors une houe aujourd'hui, si tu m'arrêtes si je me trompe Hugo, mais c'est entre 350 et 400 euros à peu près selon les modèles, les options, etc. Après, il y a plein d'options et d'outils qu'on peut rajouter dessus, mais c'est le prix de base.
Et toi Hugo, ça t'est revenu en prix de revenu à peu près à...
J'ai une cinquantaine d'euros avec le matériel. Et après, la raison principale, bon, il y avait l'aspect financier, mais il y avait aussi l'aspect de monter en compétences, de m'entraîner sur la soudure, sur la découpe d'outils, et d'être davantage maître de mes outils et avec lesquels je travaille au quotidien. Donc je pense que c'était vraiment la raison principale d'apprendre à faire par soi-même, quoi, de gagner en autonomie.
Sur le plan technique, pour la réalisation de la houe, je me tourne vers l'ingénieur Guillaume. Tu as eu les plans avec l'atelier paysan. C'est qui l'atelier paysan ?
Eh ben oui, en fait, là, j'ai pas fait beaucoup de travail d'ingénierie puisque l'ingénierie était déjà fait. Puisque l'Atelier Paysan, c'est une association qui est basée en Isère et qui a plusieurs sites et qui propose surtout un site internet sur lequel on peut trouver des outils pour l'agriculture libre de droit. Donc, c'est des plans qui sont distribués à tout le monde pour que les gens puissent fabriquer leur propre outil. Alors, on peut le fabriquer soi-même, on peut acheter des pièces chez eux et se le fabriquer aussi. Ou alors, il y a une version plus complète où on peut avoir les formations qui sont dispensées par cette structure-là, qui nous permet, ou qui permet aux paysans et aux paysannes d'aller pendant un week-end ou selon les outils, passer du temps pour apprendre à fabriquer cet outil-là. Donc ça, c'est vraiment la base de ce travail-là. Quand on s'est rencontré avec Hugo, on est amis depuis quelques temps maintenant, on a eu l'occasion de discuter de ça. Moi, je trouvais le concept très très chouette de pouvoir avoir ces plans à disposition. L'idée est venue donc de faire cette houe-là, la houe, il y a 4 versions, je crois, en ligne. Donc c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé, donc développé par des paysans et paysannes avec l'aide de l'Atelier Paysan. Ils ont fait plusieurs versions pour arriver à un produit assez abouti. Et donc, on est juste allé sur Internet télécharger les plans. Ensuite, moi j'avais le matériel à l'atelier pour utiliser, enfin en tout cas fabriquer cet outil-là. Ça nécessite pas des outils excessivement complexes, mais il faut les avoir, pouvoir débiter des barres en acier, pouvoir les souder, pouvoir meuler tout ça pour que ce soit propre. Et elle est pas mal cette soudure.
T'as vu ça finalement? Même le petit soudure à l'arrache, elle est jolie.
Écoute, parfait.
Ça va vraiment progresser.
Bon, Hugo et Guillaume, merci.
Merci Pao d'être venu nous voir. Et puis
à bientôt sur Radio Express.
À bientôt.
Allez, merci à Hugo et à Guillaume pour la découverte d'une houe et pour leur volonté de partage et d'autonomie. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission dans le créneau Garde à Rem la Terre ce mercredi à midi et 18h et rediffusée le samedi à 8h du matin.
Merci Pao. On reste du côté de Pigouzon puisque ce vendredi 1er mars à 20h, la médiathèque de Pigouzon accueille Sarah Roubateau et son spectacle « Là où les rêves sont fertiles ». Sur un quai, un homme et une femme dans le train qu'ils attendent, les élus, les exclus, les chanceux, les perdants, les presque rien, les âmes perdues. À travers des chansons inspirées de Bruce Springsteen, Alors oui, tu peux me le faire.
Springsteen.
Et Bruce.
Il me manque l'accent anglais. Voilà, Bruce. À travers ces chansons, Sarah Roubateau et Hugo Cordonnier racontent l'histoire de tous ceux qui rêvent d'embarquer pour une autre vie. On écoute le titre « Là où les rêves sont fertiles » sur Radio Albiges.
Prends ton sac, c'est déjà le jour. Bientôt les rails vont crier. Où on va, j'en ai aucune idée. C'est un ticket sans retour. Mon amour, si tes paupières se baissent, mets ta tête juste là. On prendra ce qu'on pourra et on laissera le reste. Les roues de fer nous portent dans les champs baignés d'avril. Prie qu'elle nous escorte là où les rêves sont fertiles.
Certains soirs, si tu as froid, je serai là pour toi. Il faut quelqu'un parfois pour un petit bout du chemin. Sèche tes larmes avec ma main, que ce soit les dernières. Demain le soleil nous suffira, nos histoires seront loin. Les roues de fer nous portent dans les champs baignés d'avril. Prie qu'elle nous escorte là où les rêves sont fertiles. Dans ce train,
les élus, les exclus.
Dans ce train,
les chanceux, les perdants.
Dans ce train,
les joueurs, les putains.
dans ce train,
les âmes perdues.
Dans ce train,
les rêves ne seront pas déjoués.
Dans ce train,
l'espoir sera remercié.
Dans ce train,
écoute les rechanter.
Dans ce train,
teintez la liberté.
Dans ce train,
n'est presque rien les écorcher.
Dans ce train,
voleurs de bourse, voleurs de cœur.
Dans ce train,
les fous des rois, les rois des fous.
Dans ce train,
les rêves ne seront pas déjoués.
Dans ce train,
l'espoir sera remercié.
Dans ce train,
écoute les roses chanter.
Dans ce train,
teintez la liberté.
Les roues de fer nous portent dans les champs baignés d'avril. Criquet nous escorte là où les rêves sont fertiles. Les roues de fer nous portent dans les champs baignés d'avril. Criquet nous escorte là où les rêves sont fertiles.
Sarah Roubato et Hugo Cordonnier sur Radio Albigès pour Comme un lundi, à retrouver en concert pour un spectacle théâtral et musical de folk en français ce vendredi 1er mars à la médiathèque de Pigouzon à 20h. C'est gratuit et vous pouvez réserver en contactant le 05 63 43 44 50. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur Sarah Roubato, vous pouvez retrouver son entrevue réalisée en octobre 2023 par Will. C'est donc à retrouver en podcast sur radioalbiges.com ou bien sur nos réseaux sociaux.
Le vendredi 26 janvier, au foyer de la fac de Champollion d'Albi, a eu lieu des moments de rencontre, de partage, d'échange sur le thème genre et sexualité. Fanette du mouvement rural de la jeunesse chrétienne, MRJC, et Angéline, Emeline et Alexandre de l'association de la Fondation étudiante pour la ville, la FEV, ont mis en place et animé cette action autour du thème genre et sexualité. Je vous propose d'écouter les échos d'une rencontre entre Angèle, un jeune homme trans de 17 ans, et Isabelle, une femme trans assumée de 70 ans.
À toi,
bah, moi c'est Angèle, j'ai 17 ans et je suis un homme transgenre. J'ai commencé mon parcours il y a 2 ans et voilà.
Et moi j'ai 70 ans, je m'appelle Isabelle, je suis retraitée et il y a bien longtemps que j'ai cheminé et que je me bats et que je lutte dans tout cela. Ça fait plus de 20 ans, voilà, ça doit faire dans les 25 ans à peu près, voilà.
Est-ce que vous pensez que être LGBTQIA+, est bien accepté dans notre société ?
Absolument pas. Enfin, de mon avis, non. De mon point de vue, on a encore trop de jugements et de peur face au regard des gens qui ne devraient pas être normal. Voilà.
Je pense qu'il y a des évolutions.
Il y a des évolutions.
Je pense qu'il y a du mieux, il y a du pire.
Oui.
Il y a du mieux où socialement parlant, le fait d'être LGBT, d'être transgenre, d'être homosexuel ou lesbienne, n'est plus une gêne, socialement parlant, pour travailler, pour s'intégrer dans la vie sociale. Par contre, le regard des autres, lui, par contre, il n'a pas évolué. Hein. Celui-là, il est catastrophique. Hein. On vous montre du doigt. Transgenre, mais ça veut dire pute. C'est quoi, ça ? Eh mais non, on est des gens comme tout le monde. Socialement parlant, on travaille. Socialement, on est intégré. Socialement, on a le droit aussi de vivre. On a le droit, on a des devoirs. On accepte qu'on ait des devoirs, mais on nous refuse nos droits. Et on nous montre du doigt. C'est là où ça ne va pas. Et c'est là où il faut se battre, et c'est là où il faut faire avancer les choses. Et c'est là que notre place est importante. C'est qu'on doit parler, on doit se faire entendre et dire les choses. Nous sommes des gens normaux, nous ne sommes pas des malades. Et on a le droit de vivre totalement notre vie aux yeux de tout le monde.
Et du coup, quel conseil tu donnerais à un jeune qui n'est pas dans la norme de genre ou de la sexualité ?
Moi, je dirais de s'assumer et de s'aimer soi-même. C'est le plus important. On aura toujours des gens qui seront derrière pour nous critiquer, que ce soit nos parents, nos amis, nos familles ou autres. On ne peut pas plaire à tout le monde. On aura des critiques forcément, comme tout le monde. Et ouais, le plus important, en fait, c'est se sentir bien. Dans sa peau, dans son environnement, etc. Voilà.
Ne pas faire par rapport au regard des autres, mais de le faire pour soi-même.
Ah oui, oui.
Se sentir être soi, se sentir vrai avec soi-même, ne pas se mentir, s'accepter tel que l'on est. Ben oui, c'est pas une maladie. Hein. Il y a une loi qui date du 2 février 2010 qui dit que la transidentité n'est pas une maladie, que c'est juste une dysphorie de genre et que nous ne sommes pas des malades mentaux. Avant, on nous foutait à l'hôpital psychiatrique. On nous soignait comme des dingos. Mais non, on n'est pas des dingos. Nous sommes des êtres humains tout à fait normaux. Voilà ce que je voulais dire. This was never the way I planned. Not my intention. I got so brave, drink in hand. Lost my discretion.
Allez, un petit clin d'œil avec la musique de Katy Perry à Kiss a Girl pour Angèle. Merci à lui et merci aussi à Isabelle pour leur témoignage lors de cette action. Une émission à retrouver dans son intégralité ce jeudi à 16h et rediffusée ce vendredi à 8h. Pour plus d'infos sur la MRJC, la Fève et Diversité Pastel, eh bien je vous invite à écouter cette émission dans son intégralité. Voilà.
Allez, on continue avec une émission réalisée toujours avec des étudiants de l'université Champollion d'Albi. On va parler maintenant d'un diplôme universitaire pour rebondir. C'est le DU Agile proposé par l'université Champollion d'Albi. Un diplôme pour accompagner les étudiants souhaitant se réorienter. Je vous propose d'écouter un extrait d'une émission réalisée par les étudiants de l'université Champollion d'Albi.
Bonjour, je suis Jeanne.
Bonjour, je suis Marine.
Et vous écoutez toujours Radio Albigès sur les fréquences 95.4 et 104.2 FM.
Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Molinier, référente pédagogique du DU Agile au sein de la faculté Champollion à Albi. Et Talia Favre, aussi étudiante du DU Agile.
Bonjour Isabelle.
Bonjour Jeanne.
Pourriez-vous nous présenter le DU Agile ?
Alors, le DU Agile est un dispositif pédagogique de l'Institut National Universitaire Champollion à Albi, porté par le Service Universitaire d'Information, d'Orientation et d'Aide à l'Insertion Professionnelle, le SUIP. Le DU Agile se déroule au semestre 2 et il s'adresse uniquement aux étudiants de l'INU Champollion. Il a été lauréat d'un appel à projet d'innovation pédagogique pour l'orientation et la réussite des étudiants.
Bonjour Talia.
Bonjour Marine.
Peux-tu nous dire comment as-tu connu le DU Agile ?
Oui, alors personnellement, quand je me suis rendu compte que la licence dans laquelle j'étais ne me correspondait pas vraiment, j'ai tout d'abord pensé à totalement arrêter la fac. Puis, grâce à une conférence sur les alternatives possibles quand on souhaite se réorienter, présentée par le SIO, j'ai pu découvrir le DU Agile. Je me suis ensuite inscrite à une réunion qui présentait plus en détail le DU Agile et qui m'a permis de prendre cette décision de m'y inscrire.
Merci Talia. Isabelle, comment pourriez-vous décrire les objectifs du DU ?
pour accompagner les étudiants de première année de licence ne souhaitant pas poursuivre leur formation d'origine au semestre 2. Le DU Agile se décline autour de trois grands objectifs. Bénéficier d'un cadre d'apprentissage favorable à l'individualisation des parcours et au renforcement de l'estime de soi. Mener une réflexion sur son projet personnel. Valoriser et acquérir de nouvelles compétences autour de la méthodologie, du numérique et du travail en mode projet.
Merci Isabelle. Talia, quelles sont tes attentes à la sortie de celui-ci ?
Alors, j'ai plusieurs attentes, notamment la principale est de trouver ma voie. Grâce au DU Agile, notamment en découvrant des domaines et des professions différentes à travers les différents dispositifs proposés. De plus, je souhaite être accompagnée individuellement, notamment pour Parcoursup. Et enfin, le plus important, prendre confiance en moi et en mes compétences.
Merci Talia. Isabelle, en tant qu'ingénieure pédagogique, voyez-vous un changement des profils d'étudiants qui intègrent le DU Agile ?
Pas vraiment. Depuis le départ, le DU intègre des étudiants avec des profils variés qui proviennent de différentes mentions de licence. À titre d'exemple, nous avons quelques étudiants qui constatent un décalage entre la représentation qu'ils se faisaient de la formation et la réalité, d'autres qui ont validé leur semestre 1. Ce qui est certain, c'est qu'ils partagent tous un objectif commun, prendre le temps de réfléchir à un projet d'études qui leur correspond davantage. Chacun apporte un regard différent et complémentaire pour réaliser différents travaux collaboratifs. Cette diversité des profils est un réel atout pour chacun et l'ensemble du groupe. Je vous remercie pour cette interview. Jeanne, souhaiteriez-vous témoigner de votre expérience ?
Avec plaisir Isabelle. Donc pour ma part, je suis sur ma seconde année en études supérieures. J'ai effectué une première année en licence de droit. Donc je n'ai pas eu mon année malgré beaucoup de travail. J'ai souhaité cette année me retenter ma chance en droit parce que je pensais depuis toujours que c'était ma voie. Donc sur le premier semestre, j'avais beaucoup plus de temps libre et beaucoup plus de temps que j'ai utilisé pour réfléchir à mes projets. Et grâce à ce temps, j'ai réalisé que le droit, c'était plus ce qui me correspondait en grandissant. Donc au début, je me suis dit peut-être que c'était juste une passade et qu'il fallait que je continue le droit. Et sauf que j'ai eu beaucoup de stress et d'angoisse que je ne trouvais pas normal parce qu'on doit quand même prendre du plaisir. Donc j'ai pris rendez-vous avec Sandra Pradel, qui est conseillère d'orientation à la fac à Albi. Et durant ce rendez-vous, elle m'a posé d'autres questions et au fur et à mesure de l'entretien, je me suis rendu compte que j'avais fait le bon choix de quitter la licence de droit. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé du DU. Donc au début, ça paraissait un peu fou et un peu flou à la fois comme projet, se lancer dans ça, parce qu'on met quand même 6 mois, enfin un semestre entre parenthèses dans nos études. Et à l'heure actuelle, je ne regrette pas du tout d'avoir intégré le DU. On est un super groupe et on se pousse tous vers le haut les uns avec les autres et c'est une super expérience. Donc voilà. Et toi Marine, est-ce que tu voudrais apporter ton témoignage ?
Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai intégré la licence anglais parce que je pensais que l'anglais, c'était quelque chose que j'aimais depuis toujours. Je me suis rendu compte en faisant mon premier semestre que ça ne me correspondait pas. J'ai donc assisté à des conférences sur la réorientation au sein de la fac. Et c'est là que j'ai vu la possibilité d'intégrer le DU Agile. Donc je me suis dit que c'était un bon choix parce qu'on pouvait réfléchir, prendre le temps, savoir quoi faire pour l'année prochaine. Parce que c'est vrai que du coup, j'avais pas forcément d'idée. Je n'ai pas hésité et j'ai de suite intégré le DU Agile. Et c'est une très bonne chose parce que maintenant, on voit qu'on peut prendre le temps de réfléchir pour l'année prochaine, de trouver notre place et plein d'autres choses.
Les étudiants du diplôme universitaire Agile sur Radio Albiges. Alors Agile, c'est agir, innover et libérer l'envie d'entreprendre. Un extrait d'une émission à retrouver la semaine prochaine sur nos ondes dans le créneau Écho de Campus le jeudi à 16h et le vendredi à 8h. Et vous pouvez la retrouver dès maintenant en podcast sur radioalbiges.com. Une émission réalisée dans le cadre d'un projet proposé aux étudiants par l'Université Champollion d'Albi en partenariat avec Lucie Calas, médiatrice d'expression, et Radio Albiges.
On est toujours donc dans Comme lundi et c'est l'heure de la chronique de Jérôme Gouste. Aujourd'hui, il s'attaque au Nutri-Score.
La chronique du désenfumage sur Air d'Otan Gaillac et Radio Albigès. Nutri-Score, malbouffe industrielle. Autrefois, les épiciers de quartier ou de village vendaient en grande majorité des produits peu ou pas transformés, souvent en vrac. Avec l'avènement du consumérisme et de la grande distribution, les habitudes de consommation ont été révolutionnées. Les linéaires des hypermarchés sont maintenant remplis de produits alimentaires, industriels, transformés et emballés. Et la plupart de ces produits comportent de nombreux ingrédients et additifs. Mais reprenons le début. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, la population était très majoritairement rurale et agricole. On mangeait ce qu'on produisait à proximité. L'alimentation reposait sur des végétaux plus ou moins bruts. Les apports en protéines étaient à 75% végétaux avec les céréales et légumes secs. Les protéinées animales, c'était le porc de la ferme, les volailles, le poisson de la rivière. Les glucides à base de graines et de végétaux frais et le pain était l'aliment de base. Le sucre n'était pas à la portée du plus grand nombre, le miel en quantité limitée. Les lipides étaient surtout d'origine animale, graisse de porc et un peu végétale avec des huiles locales. L'industrialisation et l'exode rural a fait disparaître l'autoconsommation au profit de l'achat de nourriture. Dans le même temps, la bourgeoisie triomphante imposa ses nouvelles règles. La viande et les produits raffinés devenaient autant de marqueurs sociaux. Végétaux et produits bruts autant de signes de pauvreté. Et la révolution verte a parachevé la chose en produisant de quoi avoir cette alimentation de masse uniformisée et industrialisée, bon marché, pour orienter la consommation vers d'autres secteurs lucratifs. Tout cela nous amène au XXIe siècle et au cri d'alarme sur la malbouffe. Une nourriture trop riche, trop de sucre, trop de matières grasses, trop de protéines animales, trop de produits raffinés, trop de sel. Les autorités de santé publique ont donc cherché comment faire évoluer les consommateurs, sans pour autant toucher au dogme de la consommation. C'est ainsi que le Nutri-Score vit le jour en 2017. Objectif ? Proposer un étiquetage nutritionnel sur les emballages des produits d'alimentation, Quant, qui permettent de guider les consommateurs dans leurs choix dans les rayons des supermarchés, pour aboutir à des portions en équilibre alimentaire. On part d'échantillons de 100 grammes ou 100 millilitres de chaque produit. L'analyse porte sur des éléments négatifs et positifs. En négatif, l'apport énergétique, les sucres, les graisses saturées, le sel. En positif, les fibres, les protéines, les végétaux. Et pour ceci, fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, etc. Pour les fromages, la teneur en protéines est toujours prise en compte car elle est liée à celle du calcium. Une note positive ou négative est attribuée pour chaque composant. L'ensemble aboutit à cet étiquetage de A vert à E rouge foncé. Le consommateur est incité à consommer des produits A ou B et à délaisser les produits D et E. Mais manger uniquement des A ou des B aboutirait à un déséquilibre, à l'image de tous ces régimes amaigrissants qui provoquent des dénutritions. Le Nutri-Score est peut-être valable pour comparer deux produits de la même catégorie, mais sa pertinence est limitée pour choisir deux produits différents. 100 grammes de pâte, 100 millilitres d'huile, 100 grammes de sauce béarnaise ou 100 grammes de biscuits, ça n'a pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Et d'autre part, cette catégorisation conduit à des excès. Par exemple, l'huile d'olive était initialement notée E, alors que sa consommation journalière ne dépasse pas quelques cuillerées et que ses acides gras non saturés sont bénéfiques. Bon. Elle est maintenant classée C. L'immense majorité des fromages se trouvent en D ou E, alors que leur consommation est limitée et qu'ils ont parfaitement leur place dans un régime équilibré. A l'inverse, cette notation ne prend pas en compte des composants réputés néfastes. Ainsi, si le Coca-Cola est en E, le Coca Light est en B, puisque le sucre a été remplacé par l'aspartame, dont tout le monde connaît bien l'effet néfaste. S'agissant de produits transformés, l'étiquetage ne porte que sur les principaux constituants. Colorants, conservateurs et autres ne sont pas pris en compte alors que leurs effets négatifs sont attestés. On en trouve dans toute la gamme de E à E. Et ça ne prend pas en compte la transformation. Il y a loin du produit originel, végétal ou animal, au produit final emballé. Raffinage, cuisson ne sont pas prises en compte alors qu'elles peuvent dénaturer le produit et détruire certains nutriments. Quant à l'origine des produits, bien sûr, l'origine et le mode de production sont totalement absents du calcul. Comme il s'agit uniquement de produits industriels, la plupart sont issus de l'agriculture la plus intensive, celle qui utilise le plus d'engrais et de produits phytosanitaires, peu importe qu'ils nuisent à l'environnement. Depuis plus de 70 ans, l'agriculture productiviste déverse des milliers de molécules dont on ne connaît pas les effets secondaires et les interactions. Et l'industrie agroalimentaire en rajoute d'autres dans la préparation et l'emballage. Par contre, au niveau de la population, le Nutri-Score semble avoir porté ses fruits. Presque un adolescent sur deux connaissant le Nutri-Score déclare avoir été incité à choisir un produit meilleure qualité. 43% des adultes indiquent que le Nutri-Score pourrait leur faire changer durablement certaines habitudes alimentaires. En fait, le Nutri-Score représente en quelque sorte un blanchiment de l'alimentation industrielle, donnant l'impression qu'une alimentation bas de gamme peut être bonne pour la santé. Oui, mais que manger ? En 1999 a été lancée la première campagne de promotion 5 fruits et légumes frais par jour. Malheureusement, ce n'est pas à la portée financière de tout le monde. L'association Famille Rurale a publié une étude sur le sujet. Pour respecter les préconisations du programme national Nutrition Santé, soit 5 fruits et légumes par jour, une famille de 4 personnes doit consacrer entre 10 et 18% du SMIC. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est normal. Lorsqu'un kilo de bouffe industrielle prête à manger coûte moins cher que des aliments sains à cuisiner, comment espérer améliorer agriculture et alimentation ? Surtout si on inclut des légumes hors saison ou importés de pays lointains. Lorsqu'on entend dire que les légumes sont hors de prix au mois de janvier en citant aubergines, poivrons ou autres, alors que des légumes de saison peuvent être faciles à cuisiner et beaucoup moins chers. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose. Une politique agricole qui favorise des productions saines, tous en assurant des revenus aux paysans au lieu de prolonger de 10 ans l'usage du glyphosate et de continuer à financer une agriculture écologiquement et socialement destructrice. En attendant, revenons à une cuisine simple à base de produits non transformés. Consommons moins de viande, mais de la vraie viande. Les légumes les moins chers sont abondants. Poireaux, oignons, choux, carottes, panais, navets, courges avec un peu de thym. Vive les soupes! C'était la chronique du désenfumage sur Air d'OTAN Gaillac et Radio Albigès.
Voilà, merci à Jérôme Gouste, chronique de désenfumage qu'on peut retrouver, vous l'avez entendu, sur Radio Albigès et nos amis de Air d'OTAN.
Et maintenant, on vous propose une nouvelle définition de l'abécédaire de la maison commune de la décroissance. Aujourd'hui, on parle de convivialité.
La maison commune de la décroissance vous présente son abécédaire.
Convivialité. Dans ce mot, on retrouve celui de convive. Souvenons-nous que l'organisation de banquets républicains était une pratique qui remonte à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790 et qu'en 1847, sous la monarchie de Juillet, une campagne des banquets débouche sur l'instauration de la Seconde République. 1848. Pour la décroissance, il s'agit plutôt de reprendre un thème développé dans un livre fameux d'Ivan Illich. Il n'est plus question simplement de banquet, mais d'une critique globale de la société industrielle. Après avoir dénoncé les institutions comme l'école, la santé et les transports qui ont perdu ce pourquoi ils étaient faits au début à cause de leur taille, il s'agit avec la convivialité de critiquer de façon globale un système qui a créé le monopole radical. Il s'agit par exemple du monopole automobile qui empêche les recours à des moyens de transport sans moteur, où les gens sont obligés de s'adapter à son monde, sous risque d'être expulsés de la société. La convivialité pour la décroissance, c'est donc l'opposition au monopole radical qui ne fait pas qu'expulser les individus, mais qui détruit la société elle-même. Par la séparation disproportionnée entre la ville et la campagne, par la perte du pouvoir de contrôler les innovations techniques, conviviales ou non, etc. Il existe enfin le cycle du don, demander, donner, recevoir et rendre sans basculer dans le cycle diabolique, ignorer, prendre, refuser et garder. Le don, à l'origine, permettait de créer des liens de dépendance réciproques sous la forme du potlatch, par exemple. La décroissance pourrait s'en inspirer comme élément permettant de recréer société afin de préserver une convivialité universelle.
Et merci à Bruno de la Maison commune de la décroissance pour cette définition issue de l'abécédaire de la décroissance à retrouver notamment sur le site de ladécroissance.xyz. Merci beaucoup.
Allez, pas de message répondeur cette semaine, mais on remercie quand même Milioud qui nous a appelé jeudi dernier pour nous dire que l'antenne ne fonctionnait plus. En effet, un petit problème technique vous a privé de Radio Albigès en début d'après-midi, mais c'est réparé et on remercie tous nos auditeurs réactifs comme Milioud. On vous rappelle le numéro où vous pouvez nous laisser vos messages, annonces, critiques, dédicaces et autres analyses. C'est au 09 77 66 38 56.
Et on continue avec l'actualité culturelle en Occitanie, en 180 secondes avec l'Assemblée régionale des radios associatives. Aujourd'hui, on parle d'arborescence des mots, une rencontre avec des personnes qui inventent leurs propres mots avec Radio Sainte-Afrique dans le sud Aveyron.
180 secondes, l'info culturelle en Occitanie.
Les mots.
Chapitre,
Madeleine. Mais je connais déjà tous ces mots, j'en veux d'autres.
Pimpèche.
Comment ?
C'était le mot pimpèche. Soit il y avait une coquille dans le texte, soit c'est moi qui ai mal lu ce jour-là, et j'ai appris le mot de cette façon. Et j'ai jamais réussi à revenir en arrière. Et j'ai toujours gardé ce mot, parce qu'en fait, je trouve que ça sonne mieux pimpèche que pimpèche, puisque c'est la définition, c'est une fille ou une femme ou une petite fille prétentieuse. Et après, je trouve que aussi, quand on dit avoir la pêche, être dynamique, souvent les filles prétentieuses, elles sont dynamiques parce qu'elles en veulent, elles veulent gagner. Et qu'on a une certaine idée de sa personne, voire qu'on a un léger complexe de supériorité, en général, on est très dynamique. Et chaque fois qu'une fille m'énerve parce qu'elle est comme ça, je me dis, mais quelle pimpèche.
Les mots. Oui, les mots sont des histoires. Leurs histoires à elles.
La wisherache, c'est quand les enfants demandent « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Eh ben, les parents répondent « De la wisherfraîche ».
Quand j'étais petite, je me promenais partout dans le salon avec mon pot et du coup, mes parents appelaient ça le pot billette.
Nommer, c'est conscientiser. Mots interdits. Histoire interdite ?
Si par exemple on disait un mot, on était repris systématiquement. On ne disait jamais, moi je vais te dire, on était repris, moi mes parents.
C'est pas comme le...
Non, ça ne se dit pas, vous parlez correctement, etc. Donc je ne crois pas qu'on ait dit beaucoup de mots farfelus. Hein.
Mots imposés ? Histoire imposée ?
Avec mes copains du lycée, on avait inventé le mot tripilé-chéchourlier. Tripilé-chéchourlier ou tripilé-chéchourlant, ça veut dire enthousiasmé, enthousiasmant, rigolo, sympathique.
Mot créé, histoire partagée.
Pour que ce soit clair pour nous, la différence entre un moutier et un amour, ça va être quoi ?
Un moutier, c'est la relation entre le couple, mais plus version amicale.
D'accord. Donc là, c'est ton énomour, si j'ai bien compris.
Là, ouais. Là, ça y est.
Non, et énomour, c'est pour les petits trucs de la vie de tous les jours qui te fâchent, mais que tu peux quand même rien dire parce que tu vis avec, quoi. Donc t'es au courant de ça.
Même mot que tu prononces, mais pas la même chose dans le mot. Les mots, mes mots créent moi, mes mots, c'est moi. Ce numéro de 180 secondes a été réalisé par Radio Sainte-Afrique pour l'Assemblée régionale des radios associatives dans le cadre d'un partenariat avec la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Merci à Radio Sainte-Afrique pour cet épisode de 180 secondes. Tous les épisodes de 180 secondes sont à retrouver, on le rappelle, sur le site de l'ARA A2RA. C'est radio au pluriel avec tiré du 6 A2RA.fr exactement, ou sur la page Facebook de l'Assemblée régionale des radios associatives.
Et on continue avec quelques brèves avant de terminer.
On se met le petit bed en fond là. On rappelle, demain mardi, dans notre créneau podcast ND, on réinvite la réalisatrice sonore Marie Cheneval, qu'on avait déjà entendue il y a quelques mois sur les ondes, avec un documentaire sonore composé par la compagnie Easy, dont on a aussi parlé dans Comme un lundi, autour des récits d'habitants et et de collectage sonore des enfants du centre de loisirs de La Courbe à Groyé. Une histoire des lieux qui s'écoutent pour hier, aujourd'hui et demain. C'est à retrouver demain mardi à 20h ou encore dimanche à 12h sur nos ondes.
Du cinéma avec ce samedi 2 mars à partir de 20h, la projection au cinéma La Pérouse d'un film documentaire autour des cultures occitanes et osages, Un pont au-dessus de l'océan, film de Francis Foursou, des grandes plaines osages d'Oklahoma aux montagnes d'Occitanie, deux cultures autochtones se parlent et se répondent. Deux femmes nous racontent deux cultures autochtones aux langues menacées, Isabelle l'Occitane chez les osages, Chelsea l'osage chez les Occitan, parcourant les paysages et l'histoire des plaines d'Amérique et des montagnes d'Occitanie. A noter qu'une autre projection aura lieu le lundi 11 mars à la salle Arcé, toujours à Albi.
Et toujours cinéma, le festival Les Seconds Rôles au Premier Plan, organisé par le cinéma de Carmo et l'association Clap Action. C'est ce week-end du 1er au 3 mars 2024 à Carmo, avec notamment la présence de Dominique Pinon, l'incroyable acteur que l'on retrouve dans des films comme Délicatessen, La Cité des Enfants Perdus ou encore Dick Henneck, mais aussi Alien. Ces trois jours sont également l'occasion de revenir sur ces acteurs souvent relégués à l'arrière-plan. Retrouvez donc l'ensemble du programme, le festival Les Seconds Rôles au Premier Plan organisé à Carmo ce week-end du 1er au 3 mars au www.cinemois-carmo.fr.
Notez aussi sur votre agenda, si la multiplication des usines d'enrobés dans le Tarn vous inquiète, plusieurs collectifs vous invitent ce samedi 2 mars à 10h le matin pour une réunion publique autour justement des centrales d'enrobés. Ça se passe à l'Isle-sur-Tarn, à la salle du pôle des aînés, allée des promenades, donc ce samedi 2 mars à 10h du matin.
Allez, une autre réunion publique qui se déroulera cette fois-ci dans notre quartier à La Panouse le mardi 5 mars, où la ville d'Albi, l'agglomération et Tarn Habitat vous invitent à la présentation du projet d'aménagement du cœur de quartier de La Panouse à Albi. Au programme, la construction de nouveaux espaces de rencontre, une nouvelle ère de jeu, un nouveau cadre de vie. Venez donner votre avis et échanger autour de ce projet, donc le mardi 5 mars à partir de 18h30 à l'atelier Centre Social de La Panouse.
Et on arrive sur la fin de ce Comme Lundi. On va terminer en musique.
Oui, bien sûr, avec un avant-goût du carnaval de la Caitivio, le carnaval des miséreux, organisé par la Talbert, ce samedi 2 mars du côté de Cordes. S'il fait beau, s'il ne fait pas beau, sera remis à la semaine d'après. Mmh. À 9h30, un rassemblement prévu sous la halle de Cordes avec le café offert. Et ensuite à 10h, départ du cortège, défilé en musique et en pétassou dans les rues de Cordes et des cabanes, danse, jugement et bien sûr un grand feu de joie pour carnaval. Vous seront proposés à l'arrivée du défilé, pour ceux qui n'auraient pas prévu leur victuaille et pour vous remettre de vos émotions, de délicieux entrepans, des sandwichs, des boissons et bien sûr les oreillettes. Oui, les oreillettes.
Les oreillettes.
Voilà, les oreillettes. Allez, zou, carnaval, S.A.R.I.B.A.T., Améla Talbert, et on vous dit à lundi prochain, si tout va bien.
Bonne semaine, ciao, ciao.
Bonne semaine, à lundi.
Ciao, ciao.
Sento.